Chers membres de la fraternité des ambassadeurs,
messieurs et mesdames qui travaillez ici sur ce chantier, frères et sœurs, au nom de notre curé, le père Norbert Mouchabango, l'ensemble paroissial des Minimes et de toute la communauté de Sainte-Germaine, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette célébration. Chacun d'entre vous, par votre générosité, votre engagement, votre travail, contribue à faire grandir ce lieu qui deviendra dans quelques semaines l'église Saint-Sauveur. Soyez-en chaleureusement remerciés. Nous nous rassemblons pour marquer une nouvelle étape dans la construction de l'église Saint-Sauveur. C'est la bénédiction de la croix et de la cloche et leur fixation sur le clocher de l'église. En 2020, quand Monseigneur Robert Le Gall nous avait demandé quelle serait l'église de nos rêves, nous avions exprimé le désir d'une église visible au cœur de ce quartier. Ce souhait se réalise aujourd'hui grâce à cette cloche et à cette croix qui sont des signes de la présence de Dieu et symboles de la présence chrétienne dans ce quartier. La cloche qui va être bénie aujourd'hui porte le nom de Jeanne-Marie. Elle a été fondue par Louison de Toulouse et baptisée en 1862. Sur sa robe sont gravés le Christ en croix et la Vierge en prière. Elle appartenait autrefois au monastère Notre-Dame de la Charité. Quand ce monastère a été fermé, elle a été donnée au diocèse de Toulouse. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir Jeanne-Marie prendre place en haut du clocher de l'église Saint-Sauveur. Ce clocher est couronné par la croix réalisée par l'entreprise Fort, qui est une entreprise toulousaine qui fait partie de l'ensemble paroissial des Minimes. Jeanne-Marie retrouve ainsi sa vocation première, qui est d'appeler les fidèles et toute personne de bonne volonté à rejoindre la communauté pour y vivre l'Eucharistie, la prière, le partage et la rencontre. L'histoire de Jeanne-Marie, qui reprend aujourd'hui son service, nous interpelle tous et toutes. Elle rappelle à ceux et à celles qui se sont éloignés de l'Église ou dont la foi s'est affaiblie que Jésus continue inlassablement à nous appeler pour venir à sa rencontre. Comme la cloche retrouve sa voix et la croix prend place au sommet du clocher, nos cœurs peuvent se mettre à battre au rythme de Jésus qui nous appelle à l'amour et à la vie.
Je passe la parole à Daniel, je pense, qui va venir sur l'historique des travaux.
Fin août 2023, il y a un an, à quelques jours près, cinq d'entre nous, ils sont tous là d'ailleurs, avaient passé un samedi sur ce terrain avec une tronçonneuse pour couper les quelques arbres qui étaient là-bas sur le chemin. Sur ce terrain, ici, il n'y avait rien, hormis quelques broussailles et des traces de la célébration de la pose de la première pierre. Il y avait un peu de ciment là au milieu. La première pierre, elle a été mise de côté ensuite, et vous la verrez tout à l'heure, elle est dans le hall d'entrée. Un an après, nous pouvons mesurer le chemin parcouru et contempler l'œuvre réalisée grâce au savoir-faire de tous les intervenants. Le bâtiment de l'église Saint-Sauveur que vous voyez aujourd'hui est la concrétisation du rêve exprimé par la petite communauté chrétienne de Bourg-de-Rouge. En réponse, Séverine l'a dit tout à l'heure, à la question fraternellement posée par Monseigneur Le Gall en 2020, décrivez-nous l'église de vos rêves. Bravo à nos architectes d'avoir su traduire sur le papier les aspirations exprimées par la communauté de Bordeaux-Rouge. Bravo à eux d'avoir remporté le concours d'architectes avec ce projet qui démontre qu'ils ont su comprendre et déployer la vision initiale. Merci à Mathilde, Pierre, Baptiste et Benoît d'être entrés aussi pleinement dans cette démarche. Un an après, nous considérons déjà comme des souvenirs chacune des étapes de la construction du bâtiment, qui a été voulu éco-responsable. Préparation du terrain, fondation, première découverte de l'implantation du cercle, puis élévation des murs, apparition de ce drôle d'immeuble rond, ça c'est la presse de cette semaine, apparition des poteaux côté jardin, puis élévation du clocher, pose de la charpente, tout ceci a été réalisé dans les temps, voire même avec de l'avance. Les étapes suivantes, la couverture de l'église, puis le second œuvre, pose des parements et des briques en terre crue, qui nous entourent là, cloison, menuiserie, électricité, plomberie, chauffage, sol, et dernièrement, la clôture du terrain. Une mention très spéciale pour la vitrailliste Sclérène Imbeau, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, et pour la sculptrice Sylviane Selma, je ne sais pas si elle est là.
Elle est là.
Elle est là, on la verra tout à l'heure. Elles ont réussi à mettre leur talent artistique au service du projet, en harmonie avec la vision des architectes. Alors, tout cela, c'est ce qu'on voit. C'est le fruit du travail de chaque artisan, de chaque ouvrier, de chaque entreprise intervenante. C'est aussi, pour chaque détail, de la recherche du meilleur, de la solution la plus adaptée, à la fois pour la mise en œuvre immédiate pour la construction, mais aussi pour un usage dans le temps et un entretien facile et peu coûteux. Je suis certain, quel que soit l'avancement de chacun sur le chemin de la foi, que nous sortirons différents et grandis de cette aventure de la construction de Saint-Sauveur. Pour conclure, je vais citer Philippe Jost, président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame, qui a déclaré ce week-end dans La Croix « C'est en vivant des choses fortes qu'on vit vraiment, et c'est en s'engageant, en donnant, qu'on reçoit ».
À la suite de ce point historique sur la place de la nouvelle église de Bordeaux-Rouge, Mgr Guy de Kerimel, archevêque de Toulouse, a béni la croix et la cloche, un moment que je vous propose de revivre.
Frères et sœurs, nous nous réjouissons aujourd'hui de cette étape vers l'achèvement de cette église nouvelle de Bordeaux-Rouge. Et donc l'église s'enrichit aujourd'hui de sa cloche, Jeanne-Marie, et de sa croix. Donc, ils seront visibles à l'extérieur comme signe de la présence des chrétiens dans ce quartier. Et donc, cette croix est pour nous, les chrétiens, non pas... bien sûr, c'était à l'origine un objet de torture. Et pour nous, elle est le signe avant tout de l'amour de Dieu, de l'amour du Christ qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie sur une croix, c'est-à-dire le Christ qui s'est abaissé et jusque-là, au plus bas de notre humanité blessée, pour nous ouvrir à la vie. Et la cloche, elle est liée à la vie de la communauté chrétienne. Sa sonnerie, vous le savez, marque les temps de prière, rassemble le peuple de Dieu pour les célébrations liturgiques, mais elle est aussi dans un quartier, un signe vivant. Très souvent, depuis que je suis prêtre, j'ai entendu quelques plaintes pour les cloches, mais surtout, beaucoup plus de gens dire, y compris des non-croyants, etc., merci pour les cloches, parce qu'elles sont signes de vie, elles donnent comme une âme à un quartier, et donc, elle partagera en quelque sorte les joies et les peines des fidèles et des gens du quartier. Et donc, en entendant la cloche, nous nous souviendrons que nous sommes une famille. En écoutant son appel, nous nous rassemblerons pour manifester notre unité dans le Christ. Donc, Jésus a demandé à ses disciples d'évangéliser, d'aller annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Et alors, au cours des 2000 ans d'histoire, cette évangélisation s'est faite d'abord par des apôtres, par les 12, faibles, craintifs et tout tremblants. Et comme dit saint Paul, quand il vient chez les Corinthiens, je ne viens pas,
chez vous avec la puissance de la parole, mais faible, craintif et tout tremblant, mais avec la puissance de l'amour de Dieu. Et donc, c'est cela. Et au fur et à mesure que le christianisme s'est établi dans un certain nombre de pays, dont le nôtre, eh bien, la tentation, ça a été d'y aller un peu pour montrer notre puissance, notre force. Et même, je crois que dans certaines régions d'Allemagne, ça a été aussi un peu avec l'épée, quand même. On est allé évangéliser. Et encore, dernièrement, je disais à un journaliste tout à l'heure que on a pu quelquefois, quand l'Église était encore puissante dans la société, construire des grandes églises pour montrer notre force. Et il fallait que quelquefois l'Église soit la plus grande possible aussi. Alors entre quartiers, en plus, il y avait des jalousies. Bon. Et aujourd'hui, donc, nous sommes en train d'achever une église modeste dans un quartier nouveau de la ville de Toulouse. Et je me dis, bon, comment entendre aujourd'hui l'invitation de Jésus à évangéliser? C'est vrai, enfin, cette parole s'adresse à nous, chrétiens, aujourd'hui, bien sûr, mais peut-être que les événements nous invitent justement à évangéliser d'une autre manière qu'en montrant notre force, notre puissance, mais par, bien sûr, une certaine visibilité, plus modeste, mais toujours par la puissance de la charité, par la puissance de l'amour divin qui nous habite et dont nous avons à témoigner déjà par notre communion fraternelle et par une communion toujours ouverte. Une communion fermée, ce n'est pas l'Église. Une communion ouverte, oui. Et donc, je pense que cette Église, elle nous dit quelque chose aussi pour notre manière d'évangéliser pour aujourd'hui. Et que nous avons à entendre cela. Et puis, dans mes réflexions de ces derniers mois, je me disais, au fond, il y a la logique de la loi du plus fort qui est très présente dans le monde. Et face à la sécularisation avancée de nos sociétés, notre société française, la tentation peut-être pour nous, c'est d'y aller par la force aussi, de répondre, d'entrer dans cette logique de la loi du plus fort pour réaffirmer notre foi, pour refaire de la France une terre chrétienne, etc. Et je pense que utiliser la force, ce n'est jamais le bon chemin. En tout cas, ce n'est pas un chemin chrétien. Car s'il y a une logique de la loi du plus fort qui est très présente dans le monde, dans les sociétés, la logique chrétienne, c'est la logique de la loi du plus faible. L'Évangile nous dit toujours que le plus petit, le plus pauvre, doit avoir la première place. Et donc, alors évidemment, c'est quand on dit ça comme ça, ça nous dérange un peu. Mais en se souvenant de ce que dit Jésus à saint Paul, la puissance se déploie dans la faiblesse, la puissance de l'amour. Et donc, c'est pas par la séduction, c'est pas par la force, mais c'est par la puissance, ce que je disais tout à l'heure, la puissance de la charité. Et c'est cela que nous devons redécouvrir, nous, communauté chrétienne. Et donc, pour notre témoignage, c'est notre mission d'évangéliser, c'est cela que nous devons retenir, c'est-à-dire accueillir encore une fois, mettre au cœur de nos communautés les plus petits, les plus pauvres, et donc témoigner encore une fois par notre charité, par nos paroles bien sûr, mais si nos paroles ne s'accordent pas avec notre vie, évidemment le témoignage n'aura pas beaucoup d'impact. Et donc que le Seigneur nous donne cela. Effectivement, la cloche, on connaît des cloches plus grosses, à la cathédrale le bourdon va être un peu plus épais, mais voilà, cette cloche elle est adaptée à cette église et au quartier. Et la croix aussi, donc, voilà, comme témoin, encore une fois, de l'amour du Christ.
À la suite de ce moment qui marque définitivement l'histoire du quartier de Bordeaux-Rouge à Toulouse, le père Norbert Misabongo, curé de l'ensemble paroissial des Minimes, nous livre ses premières impressions et nous dit ce que va apporter l'église Saint-Sauveur dans ce quartier multiculturel.
Alors, dans ce quartier de Bordeaux-Rouge, l'église Saint-Sauveur apporte énormément. D'abord, pour tout ce qui est espérance. Cette église devient signe d'espérance pour les habitants de ce quartier, parce qu'il offrira un lieu de rencontre, un lieu de recueillement, un lieu de prière, un lieu de rencontre avec son Créateur. Qu'importe le nom, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler Allah, pas de soucis. Mais donc, cette église porte cette espérance, premièrement. Deuxièmement, cette église contribue dans la vie du quartier, de la cité, du quartier, parce qu'elle vient être un signe de cette dynamique missionnaire qui se met en place. Et donc aussi un signe de cette humanité attirée par l'amour, par la fraternité, par la rencontre. Et donc elle apporte un plus.
Une construction dans un quartier en plein essor. Réaction de Jean-Luc Moudinque, maire de la Ville Rose.
Alors, le quartier de Bordeaux-Rouge est un quartier qui est en construction depuis maintenant pas mal d'années. Très longtemps, ça a été le projet urbain le plus important de Toulouse. On est au nord, dans un endroit qui n'était pas urbanisé, qui était autrefois beaucoup de jardins maraîchers. La poussée démographique de Toulouse, le développement, l'attractivité de notre ville fait que l'urbanisation est en marche maintenant depuis plus d'une vingtaine d'années. Elle n'est pas encore achevée d'ailleurs, même si on n'est pas loin de l'achèvement. Donc ça signifie quoi? Ça signifie de nouveaux logements, de nouveaux habitants, des services publics que nous avons développés, des commerces. Et puis l'Église catholique a pris la décision de créer ici un nouveau lieu de culte en considérant que la population accueillie dans le quartier était importante et qu'il n'y avait pas, puisqu'auparavant c'était quasiment des friches, qu'il n'y avait pas de lieu de culte jusqu'ici. Et donc je suis ici aujourd'hui de manière très symbolique pour applaudir cette réalisation qui certes correspond à un objectif propre à l'Église, mais qui, du point de vue municipal et laïque qui est le mien, participe aussi au fait d'être ensemble. C'est une occasion de plus, c'est un lieu de plus où les habitants vont pouvoir se rencontrer, se connaître, échanger.
Et pour conclure, l'archevêque de Toulouse, Mgr Guy de Kerimel, souligne le dynamisme de cette communauté et son désir pour cet endroit missionnaire.
Donc c'est signe pour moi du dynamisme de cette communauté, c'est signe que cette communauté veut être visible dans ce quartier neuf de Toulouse. Et donc pour moi c'est très réjouissant. C'est, en plus, cette communauté a le désir que ce lieu soit un lieu ouvert, un lieu qui permet des rencontres et pas simplement pour que les chrétiens se replient entre eux. Et là, donc, je dirais que tous ces éléments-là sont pour moi extrêmement positifs et signes d'un beau dynamisme de cette communauté chrétienne. Je rêve qu'effectivement, tous les dimanches, ça déborde même. Si l'église est trop petite, ce sera bon signe. Et en même temps que voilà, dans la semaine et le week-end, qu'il y ait des associations qui puissent venir ici, bénéficier des lieux, mais aussi rencontrer la communauté chrétienne.